Bonjour mes amis, ce sont les voix de service, c'est le magazine Les voix de service qui commence tout de suite jusqu'à midi moins le quart sur les ondes de Canal M bien sûr, les voix de service en l'occurrence Clotilde Sey au micro presque tout le temps mais aussi toutes sortes de collaborateurs qui viennent se joindre à moi pour vous partager leurs magnifiques lectures, ce qu'ils ont trouvé dans des revues, dans les journaux, sur le net. On se coupe en 4, en 8, en 10, en 25 par semaine, hein, c'est quand même, c'est fort. Hein. Alors, durant cette première demi-heure, je vais m'entretenir dans quelques secondes avec Mathieu Tessier. Il va y avoir Christiane Campagna qui va nous arriver certainement avec une nouvelle virale. Et puis, je vais éplucher avec vous Le Devoir, voir ce qui s'écrit notamment dans les opinions, dans l'éditorial de Madame Boileau et aussi au sujet des élections électorales. Sont-elles accessibles cette année au fauteuil roulant? Non. Bon, et puis nous irons lire également dans la presse ce qu'écrivent les uns et les autres. Voici pour la première demi-heure. Bonjour Mathieu.
Bonjour Clotilde.
Comment allons-nous ce matin?
Nous allons très bien puisque nous nous noyons ce matin.
Comment ça?
Non, parce que nous sommes la journée mondiale d'action pour le travail décent. Le travail décent. Tout individu partout dans le monde devrait pouvoir exercer un métier qui lui permette de mener une vie digne. C'est beau, hein?
Ah, OK, un travail décent.
Un travail décent,
ouais,
voilà.
Ouais.
Non seulement je prends l'accent français, mais je soigne mon français lorsque je
oui,
parle.
Oui, mais là, j'avais compris décent. Alors là, j'imaginais toutes sortes d'affaires, un crayon. Non, mais bon. OK, bah oui, ben espérons, effectivement. C'est une excellente mission. Sinon, aujourd'hui, on est quoi, d'ailleurs?
On est le 7 octobre. Oui. L'anniversaire de Louis-Joseph Papineau, qui est né en 1786...
Celui qui a donné son nom à la célèbre rue. D'accord.
Voilà. Jean-Paul Riopel aussi.
Ah oui.
Raymond Lévesque.
Celui qui a donné un nom à un fromage.
Tu es en feu ce matin. Desmond Tutu aussi.
Celui qui a donné.
Oh là là, Edgar Allan Poe est décédé un 7 octobre.
Ah oui, et dans des circonstances très nébuleuses.
Voilà, c'était pas sur la rue Papineau.
Non.
Et la citation du jour, quand on aime quelqu'un, c'est effrayant comme on ne pense pas aux autres.
Quand on aime quelqu'un, oui, ça c'est vrai, c'est
Marcel
effrayant
Pagnol.
Comme on ne pense pas aux autres. Au Marcel Pagnol,
Marcel
quand
Pagnol,
on aime quelqu'un,
dans la
c'est
pièce
effrayant.
Marius.
Ben ouais, c'est effrayant comme on n'aime pas les autres. Mais c'est vrai, hein, on a tous les yeux, le cœur, l'âme.
À New York aussi, excuse-moi, j'y pensais.
Oui?
1982, c'est la première du spectacle musical de Cats.
Ah oui.
Et ça n'a pas cessé depuis.
Oh! Miaou!
Non, mais c'est quand même
non,
fou
mais
depuis
c'est
1982.
Fou, hein, oui. Et Brou, ça fait combien de temps, nous, ici?
Ça, c'est 80... Bonne question.
Ah, c'est pas... Je connais quelqu'un hier soir qui est allé voir Brou pour la troisième fois.
C'est vrai.
Oui. Wow, il en avait dans le toupette.
Oui, je l'ai vu qu'une seule fois.
Eh bien, moi, je ne l'ai pas vu. Oui, je sais, c'est péché. C'est
non,
péché.
Mais de toute façon, elle va être encore...
Ça va être à l'affiche pendant encore 20 ans. Alors, si je suis encore de ce monde, quand je serai à la retraite à laquelle je n'ai pas droit, ben, je pourrai aller voir Brou.
Et c'est tout. Mais en fait, il y a beaucoup de choses, mais... On se limite à cela.
On se limite à cela,
voilà.
Ça va me permettre de tout de suite aller voir ce que nous réserve la une du devoir. Alors, vite fait, je fais le tour. Lys Thibault retrouve sa liberté d'ici son audience en cour d'appel. Si vous voulez savoir, ce sera au mois de février prochain. Donc, ce n'est pas terminé, cette saga. Élection fédérale suspense orange à Québec. Après 18 ans de mariage avec le Bloc québécois, la circonscription de Québec a surpris tout le monde. On s'en souvient en 2011 en élisant la néo-démocrate Annick Papillon. À l'heure du retour aux urnes, plusieurs se demandent si ce n'était qu'une simple amourette ou une réelle passion. Les eaux usées, on en parle beaucoup. Querelle entre Montréal et Ottawa. Coderre lance un ultimatum à Environnement Canada qui bloque le déversement. Où il était fâché, M. Coderre, on revient là-dessus. Collision ferroviaire dans Saint-Henri, du coup, mise en garde contre les grands convois pétroliers qui sont plus dangereux que jamais. Essai, résurgence autochtone, c'est Caroline Montpetit qui signe ce papier. Un essayiste et romancier, John Saul, présente Le Grand Retour et il nous présente un portrait de la réalité autochtone au Canada. L'école publique perd du terrain, ça fait également la une du Devoir ce matin. On voit en photo des élèves de l'école Saint-Édmond sur la rive sud de Montréal. Il semblerait que la population scolaire du réseau privé a connu un bond de 18% depuis l'an 2000, nous dit Philippe Orfali. Et puis, permettez que je commence par ça, parce que c'est proprement scandaleux. Mobilité réduite, des bureaux de vote hors de portée. Les directeurs de scrutin ont l'obligation de trouver des bureaux de vote offrant un accès de plein pied, en plus de garantir l'accessibilité selon d'autres critères aux personnes à mobilité réduite. Mais les exemptions sont trop faciles à obtenir selon le regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec le rapplique. La porte-parole du groupe que nous connaissons bien, Linda Gauthier, affirme avoir reçu de nombreuses plaintes dans les derniers jours portant sur le fait que plusieurs bureaux sont hors d'accès, notamment aux fauteuils roulants. Du côté d'Élections Canada, on estime que 96% des bureaux de vote à l'échelle du Canada répondent aux critères et que 2,1% des bureaux ne sont pas accessibles. Au Québec, la proportion est moindre. 93% des bureaux de vote répondent aux 35 critères d'accessibilité, dont 15 obligatoires, tels qu'une largeur minimale des portes et des corridors. Alors que la responsabilité incombe au directeur de scrutin de dénicher ce type de local, Mme Gauthier déplore qu'elle doive revendiquer à nouveau l'accessibilité. Et c'est ce que nous ferons de concert avec elle ici sur les ondes de Canal M. Élections Canada avait fait ses devoirs, mais maintenant on se retrouve encore avec le fardeau de nous accommoder nous-mêmes, expose-t-elle. Madame Gauthier reste en outre avec l'amère impression que certains directeurs de scrutin n'ont tout simplement pas cherché de bureau de vote de remplacement. Elle cite à ce titre un local situé au deuxième étage de l'auditorium de Verdun, alors qu'il n'y a pas d'ascenseur, quand une grande résidence pour personnes âgées se trouve à proximité, selon ses informations, effectivement. C'est pas fort. Les personnes en situation de handicap, tout comme l'ensemble des électeurs, peuvent choisir d'exercer leur droit de vote par la poste, indique une porte-parole d'Élections Canada, Francine Bastien. Le rapplique plaide qu'ils aimeraient pouvoir bénéficier de toutes les mêmes possibilités qu'un citoyen sans handicap. C'est une question de principe et de dignité. Nous essayons de rendre le processus le plus simple possible, mais nous sommes conscients qu'il y a beaucoup d'informations à assimiler, reconnaît Madame Bastien. Le problème, c'est que ces informations à assimiler, ajoute l'animatrice, ça fait tellement d'années. Je pense que j'étais pas née, que déjà on commençait à assimiler les informations en ce qui concerne les personnes handicapées. À un moment donné, il va peut-être falloir qu'on les assimile. Hein? Voilà. Oh là là, sinon, les femmes qui tiennent une plume dans Le Devoir ce matin, oh, elles y vont avec Monsieur Aubut, que ce soit Francine Pelletier ou José Boileau. Je vais commencer par Francine Pelletier, qui dit que Marcel Aubut nous rend le même service. En fait, elle dit que Monsieur Aubut nous rend un service. C'est d'ailleurs la même chose que ce qu'a fait l'ex-animateur de radio Yann Gomeschi à pareille date l'année dernière. Oui, il nous rend service parce que, dit-elle, il lève le voile sur une zone immensément grise, sur cette terre de baffin des rapports hommes-femmes, où ce qui est enthousiasmant et sexy pour les uns est soudainement inquiétant pour les autres. Un no man's land d'où il est difficile de s'extirper sans créer plus de problèmes qu'on a déjà et où les hommes, perpétuent un vieux rapport de force sans même s'en rendre compte et les femmes endurent avec le même automatisme. Alors elle dit, Madame Pelletier, merci Marcel. Ça fait plus de 10 ans que le harcèlement sexuel a disparu du radar au Québec. Il n'y a plus de cause de harcèlement sexuel, plus de jurisprudence, plus d'écrits et même les groupes de femmes n'en parlent plus, dit Louise Langevin. Au Québec, la notion de harcèlement sexuel est régie depuis 2004 par la loi sur les normes du travail sous l'appellation globale de harcèlement psychologique. Ce qui veut dire qu'un phénomène qui tient du vieux rapport hiérarchique entre les hommes et les femmes est désormais noyé dans une mer de conflits individuels opposant deux employés ou encore employeurs et subalternes. Des conflits où l'on retrouve aussi des rapports de force, mais sans la connotation systémique du harcèlement sexuel. Il y a bien sûr certains avantages à confier le harcèlement que vivent les femmes à la Commission de la Santé et Sécurité au Travail, plutôt que, comme par le passé, à la Commission des droits de la personne. C'est plus rapide, c'est gratuit et l'accent est mis sur la médiation, c'est-à-dire sur la réintégration de la victime dans son milieu de travail et ou à son dédommagement. Seulement, dit Madame Pelletier, tout se fait en catimini, loin des tribunaux et des médias, ce qui est certes plus facile pour les individus concernés, mais dessert la collectivité en blanchissant les coupables et en occultant les causes. D'où le « il n'y a plus de » au Québec depuis 2004, ou je ne sais plus combien. Ce qui est certes plus, jadis vu comme une atteinte au droit à l'égalité, le harcèlement sexuel, écrit Francine Pelletier, est aujourd'hui perçu comme un simple problème de relation de travail. On n'est pas sûr d'avoir gagné au change, dit la présidente du groupe d'aide sur le harcèlement au travail, Yolande Séguin. Alors, évidemment, très ironiquement, elle nous dit, Madame Pelletier, alors merci à Marcel Aubut de nous aider à y voir plus clair et aux femmes qui ont eu le courage de le montrer du doigt. Et il y a un éditorial sur le sujet de Madame José Boileau qui commence par ces mots. « Dorénavant, le monde changera. Allons. » Alors elle dit, Mme Boileau, dans son éditorial, « Le racoleur Marcel Aubut vient de se faire prendre les boxeurs à terre et nous voilà à décortiquer sa personnalité, à nous demander qui savait quoi, à nous faire expliquer ce qu'est le harcèlement sexuel et à nous féliciter qu'enfin des femmes osent parler. Dorénavant, le monde changera. Allons, dit Mme Boileau. Permettez, une fois n'est pas coutume, que l'éditorialiste soupire de nous voir collectivement tomber des nues autour de l'affaire Aubut. Elle a plutôt l'impression de revenir plus de 30 ans en arrière, à l'époque où le concept de harcèlement sexuel quittait les cercles féministes pour se répandre dans le public avant d'être inscrit dans des lois. Qu'est-ce qui a donc changé ? Il est vrai que depuis 30 ans, dit Mme Boileau, de temps en temps, un Marcel est dénoncé dans les médias, reflet de milliers d'autres qui sévissent depuis des temps immémoriaux dans les milieux de travail. L'ampleur du problème est aussi documentée, la pile est haute comme ça, d'études sur le nombre effarant de femmes victimes d'inconduite sexuelle, ce terme générique qui recouvre le harcèlement jusqu'à l'agression. 30 ans encore de reportages qui ont mené à des actions, à des rapports, celui sur l'armée par exemple. Inspiré d'articles du magazine L'Actualité, signé de l'ex-juge de la Cour suprême Marie Deschamps et rendu public au printemps dernier. Qu'a dit, avant de terminer son mandat, le chef d'état-major Tom Lawson, en parlant de ses exactions sexuelles dans l'armée ? Eh bien, quand ces matières sexuelles, hommes et femmes, étaient biologiquement programmées différemment. Bonjour la leçon, dit Madame Boileau. Et l'affaire DSK a-t-elle eu d'effet d'avertissement sur les Marcels qui sévissent ? Pas le moindre. Pourquoi ? Parce qu'un Marcel, ça mène le monde à sa manière. Le reste ni ne l'atteint, ni ne le concerne. Lui, il est à part, dit Madame Boileau. En 30 ans de ces histoires qui se ressemblent, il n'est arrivé qu'une fois où publiquement quelqu'un a agi sur le champ, Justin Trudeau, qui, alerté par les élus néo-démocrates, a aussitôt suspendu ses propres députés accusés d'agression, geste de principe qui lui a pourtant été reproché. M. Trudeau a néanmoins eu la même attitude lorsque le chef d'état-major Lawson a tenu ses propos déplorables de juin. Il a même réclamé sa démission. Le message du chef libéral est sans équivoque, tolérance zéro. Jamais j'aurais pu imaginer entendre dans Le Devoir une éditorialiste dire bravo Monsieur Trudeau, mais c'est bien ce que je suis en train de lire. Vous ne rêvez pas, je ne suis pas dans la presse. Donc le message du chef libéral est sans équivoque, tolérance zéro. Ce n'est pas que des mots, il faut entendre les témoignages de femmes victimes pour réaliser à quel point cette attitude-là reste rare. Réaliser aussi que tant que les rois continueront de nous séduire, les Marcel continueront de sévir. Yo, yo!
Allô!
Comment ça va, Christiane?
Ça va bien. J'ai une pensée pour les Marcel, dans le sens où les pauvres monsieur qui s'appellent Marcel,
oui.
Qui, comme Mathieu Charlebois hier aussi a fait un plaidoyer pour qu'on cesse d'utiliser le mot « mon oncle », il dit « je suis un oncle » et pour moi, ça consiste à jouer au Lego avec une tiare sur la tête avec mes petites nièces. Puis peut-on appeler les agresseurs des agresseurs?
Oui, bien sûr.
Sinon, les médias sociaux, comment dire, sont depuis hier très riches en coliformes.
Oui, ben oui.
Parce que c'est...
Oui, ben oui. Ben, non, mais c'est bien dit. C'est, on est dans la... Enfin, allez-y.
Oui, ben, ça a été un mot-clé utilisé par Annie Desrochers une ou deux reprises. On est dans la marde. Mm-hmm. Mais sinon, celui qui revient plus souvent, c'est hashtag Flushgate. Et même utilisé autant par certains petits comiques que je vous cite souvent que par Gravel le matin utilise ce mot-clé-là pour désigner la chose. Entre autres, circuler cette fameuse citation hier de François Bonnardel, parce que là, tout le monde se lance dans des envolées. « Est-ce qu'on veut faire du fleuve Saint-Laurent le Gange du Québec? »
Oh oui.
Et puis, il y a M. Coderre qui, suite à la demande du fédéral de repousser, a accusé les conservateurs de faire de la politique sur ce dossier. Et le journaliste Daniel Leblanc a dit « Quand Denis Coderre accuse quelqu'un de faire de la politique, c'est une critique ou un compliment? »
Oui, effectivement.
Mais comme c'est ça qui a dominé les médias sociaux, je vais juste en profiter pour vous parler d'autre chose, pour vous citer un compte Twitter que j'aime beaucoup, qui est aussi une page Facebook, qui était une page Tumblr au départ, mais qui celle-là est moins mise à jour. C'est Dominique Charron, ancienne chroniqueuse à midi 14h avec Luc Fortin, qui venait y traiter, entre autres, des questions autochtones, qui a créé ce compte Twitter, qui est une sorte de revue de presse de l'actualité concernant les Autochtones.
Oui.
Alors, si vous vous intéressez à la question, si vous voulez entendre autre chose que les clichés, je vous invite fortement à découvrir ce compte qui s'appelle Peuple Visible, Peuple au pluriel, Visible au pluriel, sur Twitter, donc @peuplevisible, ou sur Facebook, facebook.com/peuplevisible. Alors, des choses comme les Premières Nations détiennent-elles un vote stratégique arctique qui était dans Le Devoir hier? On a parlé des manifestations le week-end dernier. Et Dominique, même sur son compte personnel, réagit souvent quand on parle d'affaires autochtones dans les médias, entre autres à Radio-Canada. Elle a, entre autres, dit hier, « Cette discussion à médium large sur nos relations avec les Autochtones est importante. Mais pourquoi ne pas avoir aussi invité un ou une Autochtone? »
Il n'y en avait pas?
Il semble-t-il qu'il n'y en avait pas pour discuter de cette question-là.
Incroyable.
Et d'ailleurs, c'est aussi une chose qui a circulé sur Twitter. Hier, il y a un candidat conservateur qui a dit que les femmes autochtones avaient eu des comportements à risque, s'étaient mis en danger. C'est blâme de la victime, où là, on rejoint encore cette histoire.
Oui, c'est de sa faute.
Oui, c'est ça.
C'est ça, exactement. Oui, non, mais c'est intéressant parce que tout cela pendant que M. Harper a continué de dire que ce serait complètement futile et absolument pas utile de faire une enquête par rapport aux plus de 1000 femmes.
C'est des crimes comme d'autres alors que les chiffres ne mentent pas. Là,
non, c'est sûr.
Il y a une surreprésentation et il y a clairement une problématique qui est propre au cas des femmes autochtones. Alors, si c'est le genre de question qui vous intéresse, je vous invite fortement à découvrir... Dominique Charron, @docharron, et Peuple Visible, @peuplevisible.
Et puis peut-être aussi vous intéresser, comme je vous le disais, ça fait la une du Devoir ce matin, à cet essai du romancier et essayiste John Saul qui présente un portrait de la réalité autochtone au Canada. Ça s'appelle Le Grand Retour. Merci beaucoup, Christiane.
Ça fait plaisir.
Alors allons-y avec la une de la presse qui se prononce, faites-en autant, nous dit-on. Oui, alors il se prononce pour les libéraux, mais ça, bon, c'est pas nouveau. Pas d'électricité dans l'air, contre-coup de l'affaire Zach Kessian. À la veille du premier match de la saison, le tricolore manquait de fébrilité apparemment hier. Kevin va vous parler de cela. Exclusif, quand l'école publique fouille dans les poubelles du privé. Eh bien, figurez-vous qu'une enseignante de l'école des Pins à Oka vient de remplacer les pupitres rouillés de sa classe par du mobilier qu'elle a elle-même récupéré dans les ordures de l'Académie Sainte-Thérèse, une école privée subventionnée de Rosemère. C'est du gaspillage, dénonce-t-elle. Je vais en parler un petit peu plus tard, notamment avec l'amie Stéphanie Balthazar, spécialiste en environnement, qui va venir me rejoindre dans ce studio. Les eaux usées, Ottawa suspend le déversement, Coderre fulmine, là aussi. Je vais en parler avec Stéphanie. Et aussi, élection fédérale 2015, il y a un gros plan sur Elisabeth May. J'ai envie de dire enfin. Et là aussi, je vais aborder ce, vu que c'est quand même notre écologiste de service. Notre école. Oui, oui, c'est ça. La presse a accompagné la chef du Parti Vert dans sa circonscription. C'est bien intéressant. Et puis Vincent Marissal, opération Sauvons les meubles au NPD. Lui, il est convaincu qu'on va avoir beaucoup de mal, que le NPD va avoir beaucoup de mal à remonter la pente à cause du NICAB. Le petit clin d'œil de Stéphane Laporte ce matin avant de passer à un premier sujet qui est justement celui-ci, Sauvons le NPD, signé Vincent Marissal. Montréal va accueillir le championnat mondial de plongeon dans les eaux usées. Oups. Alors Marissal, donc, il est encore trop tôt dans cette longue campagne et le résultat final est trop incertain pour disserter sur l'avenir des chefs. Mais si le nouveau parti démocratique, le NPD, ne se relance pas d'ici au 19 octobre, il ne manquera pas de militants, députés et ex-députés pour critiquer directement le chef Thomas Mulcair et son entourage. En fait, certains ont déjà commencé. C'est un grand classique en politique, comme en sport d'ailleurs ou en affaires. Lorsque vous partez en tête et que vous vous faites doubler, il se trouve toujours de vos alliés pour vous accuser d'avoir trébuché. Le mal est fait, on est rendu au NPD à tenter de sauver les meubles puisque plusieurs militants, députés et organisateurs reprochent justement à Thomas Mulcair d'être tombé dans le piège du NICAB tendu par Stephen Harper et pire encore, de ne pas avoir su s'en dépêtrer pendant 3 semaines. La question du NICAB est devenue tellement lourde pour le NPD que certains candidats, et c'est le cas notamment à Québec, ont volontairement cessé de faire du porte-à-porte après le débat Radio-Canada à la presse il y a 2 semaines parce qu'ils n'en pouvaient plus d'entendre parler de ce voile facial. Les électeurs ont été déçus, très déçus, résume un conseiller du parti. Ils voudraient voter pour nous et ils reviennent quand on leur parle d'autre chose, de la retraite à 65 ans, des infrastructures et d'autres dossiers qui les touchent. Certains stratèges ont suggéré au chef de ne plus répondre aux questions sur ce sujet après quelques jours, voyant qu'il ne faisait que s'enliser. Mais M. Mulcair a continué d'expliquer, de plaider. C'est un réflexe d'avocat, mais pas de chef de parti, lui reprochent certains. Alors, il est vrai que la position de M. Mulcair est identique à celle de Philippe Couillard lors des débats sur la charte des valeurs du défunt gouvernement marois et, sur le fond, semblable à celle de Justin Trudeau. M. Mulcair a mis la défense des droits fondamentaux et la protection des droits des minorités devant le consensus québécois sur ces questions, se coupant assurément d'une partie de sa base électorale. Alors voilà, M. Harper, lui, il sait tout cela, mais contrairement à Thomas Mulcair qui fait dans les nuances juridiques, il a décidé de faire de la politique avec ces questions hautement sensibles. M. Harper en a remis hier en disant que la question du port du niqab dans la fonction publique pourrait être revue. Au fait, combien de femmes niqabées travaillent dans la fonction publique fédérale? Il nous laisse sur cette question. À mon avis, à ton avis, Mathieu?
La bonne question.
Niqabé, hein, pas voilé.
J'ai aucune des 4.
Ben pour moi, c'est 0.
C'est vrai.
Je suis quasiment sûr qu'il n'y en a pas. Moi, je suis quasiment sûr qu'il n'y en a pas. En tout cas, je me trompe peut-être. Puis une chronique dans la presse aussi qui a attiré mon attention, celle de Rima El Khoury qui nous parle de l'austérité sexiste et qui nous dit que les libéraux n'aiment pas les femmes. C'est le titre, d'ailleurs c'est pas elle qui dit ça en fait, c'est le titre provocateur du premier essai d'Aurélie Langteau portant sur un sujet dont on entend trop peu parler, l'impact des politiques d'austérité du gouvernement Couillard sur les femmes. C'est là que je voulais aller. Voilà, l'austérité est sexiste. On aurait pu dire la même chose de l'austérité de 1995 du gouvernement péquiste dont les compressions étaient plus importantes encore que celles d'aujourd'hui. L'austérité nuit aux femmes partout où elle est appliquée et peu importe par qui elle est appliquée, note Aurélie Langteau, cette essayiste, en faisant référence à un rapport récent de l'ONU qui en fait la démonstration. quand on démantèle le filet social et les services publics, les premières à en faire les frais, ce sont les femmes. L'auteur récuse le discours alarmiste qui était aussi de celui de Lucien Bouchard, voulant que la dette au Québec soit si catastrophique qu'il faudrait se passer de l'ensemble de nos services publics. La dette au Québec, il faut la surveiller, mais c'est loin d'être aussi catastrophique que l'on voudrait nous le faire croire. Et il faut surtout avoir la volonté de dire que si l'égalité des sexes nous intéresse, si de façon générale la justice sociale nous intéresse, on peut prendre les moyens de garder les services publics et les institutions qui permettent de favoriser l'autonomie et de maintenir une solidarité avec les personnes les plus vulnérables de la société, dit encore Aurélie Langteau, qui dit que bien des gens croient que l'austérité nuit à tous et que c'est ultimement pour le bien de tous, selon la religion du déficit zéro, hommes et femmes également. C'est complètement faux, explique Aurélie Langteau, en citant notamment une étude de l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS. Le fait est que l'austérité frappe plus durement les femmes pour deux raisons. La première, c'est que l'austérité s'en prend d'abord au secteur public où la majorité des emplois sont occupés par des femmes. Enseignantes, infirmières, éducatrices, fonctionnaires, ce sont elles qui perdent leur emploi ou voient leurs conditions de travail devenir de plus en plus précaires. Et la deuxième raison, c'est que les femmes utilisent plus les services publics et sont en général plus pauvres que les hommes. Alors, Rima El-Khoury qui nous dit qu'avec cet essai, Aurélie Langteau aimerait faire prendre conscience aux gens que les politiques d'austérité qu'ils subissent ne sont pas une fatalité et que si ces politiques sont particulièrement désastreuses pour les femmes, ultimement, elles nuisent à tous. En refermant son livre, conclut Rima El-Khoury, je me suis dit que si les libéraux n'aiment pas les femmes, moi, j'aime Aurélie et sa façon brillante de contribuer au débat public. Ce livre d'Aurélie Langteau, cet essai sur l'austérité, « Les libéraux n'aiment pas les femmes », sera disponible en librairie le 8 octobre prochain, autrement dit demain, si je ne m'abuse. La caricature de Chapleau ce matin. Ottawa ordonne la suspension du déversement des eaux usées. Et là, il y a M. Lebel, donc, à Ottawa, qui dit ben, « on prend juste une pause pour réfléchir ». Et là, il s'en va aux toilettes avec son papier sous le bras. Restez des nôtres, Stéphanie Balthazar va se joindre à moi dans quelques minutes. Il sera question notamment d'environnement, d'écologie et de toutes sortes de beaux sujets qu'on vous réserve.
Tellement jolie, je t'aime. I love you. Si tu veux un rendez-vous, mais moi, je serai doux, 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 forever. Pour toujours. Viens dans mes bras, ma petite fille. Je veux pas que cet amour se gaspille. Oh, oh, j'ai plein d'amour à donner.
Plein d'amour.
J'ai plein d'amour à donner. J'ai plein d'amour. S'amuser, automne, hiver, printemps, été, forever, pour toujours. Tu me dis que l'amour n'existe pas. Regarde dans mes yeux, dis-moi ce que tu vois. Wow, wow, j'ai plein d'amour à donner.
Plein d'amour.
J'ai plein d'amour à donner. J'ai plein d'amour. J'ai plein d'amour à donner.
Plein d'amour.
J'ai plein d'amour à donner. J'ai plein d'amour.
Damien Robitaille, il a de l'amour à donner. Montréal, il a de l'amour à donner. Bonjour tout le monde. Ben oui, c'est la folle dingue de Clotilde Seille au micro de Canal M. Toujours, ce sont les voix de service qui continuent. Décidément, le mercredi, là, on n'a vraiment pas de chance. La semaine dernière, Stéphanie s'était blessée et j'avais Louise toute seule. Et hier, il y a Louise qui m'appelle avec une voix comme ça. elle me dit, je pense que je ne peux pas faire la radio. Alors du coup, Stéphanie, dont la cheville va mieux, est là aujourd'hui, mais on a perdu Louise à qui on fait un gros bisou. Bonjour Stéphanie.
Coucou.
Stéphanie, vous, ce qui vous allume dans la vie, c'est l'écologie, c'est
bien
l'environnement,
sûr.
C'est la protection de la nature, tout ça. Et vous avez plein de beaux sujets à nous proposer aujourd'hui.
Oui.
Comme quoi?
Le gaspillage alimentaire.
Ouais.
Puis je vais vous parler d'une de mes idoles, Naomi Klein.
Ouais.
Deux, trois petits articles à son sujet.
D'accord.
Puis, c'est pas mal ça.
C'est
puis
pas d'autres mal choses. Ah oh ben non, ben allez-y, allez. Chaud. Non, allez-y,
on
allez-y.
Commence,
allez-y. Non, je veux pas que vous commenciez. Moi, je veux que vous m'appâtiez.
Ah.
Je veux que vous... Je veux savoir.
J'ai l'art de résumer, donc...
Oui, oui vous avez un esprit de synthèse absolument...
Oui, un peu trop, des fois.
Flabbergaston.
Ben, écoutez, je vais quand même faire une... pour ceux qui écoutaient il y a deux semaines, je vais faire une petite suite à ça, le zéro déchet. Il y a des gens qui ça l'a titillé dans le bon sens du terme.
Oui.
Et un petit peu d'actualité montréalaise en ce qui a trait à l'environnement. Je crois que tout le monde a entendu parler de la grille du Frêne et on en a même un peu trop entendu parler, mais pas assez, je trouve, des solutions.
Mm-hmm,
on entend parler que, bon, on coupe les arbres, machin,
mais moi, j'ai autre
chose à dire à ce sujet-là.
D'accord, OK. Alors, on va vous écouter. Moi aussi, je vais évidemment aborder le problème du déversement des eaux dans le Saint-Laurent, puisque ça fait l'actualité du jour. Hein. Vous savez que M. Coderre est parti en croisade contre le fédéral qui a finalement décidé pour l'instant de dire stop, vous ne ferez pas ça. Coderre qui dit oui, mais si on ne fait pas ça, on fait quoi? Bref, il en sera question également pendant cette heure que nous allons passer ensemble. Préparez-vous, Stéphanie, parce que c'est vous qui allez ouvrir le bal.
Wouhou!
Alors, vous commencez avec quoi ce matin?
Avec une bonne blague.
Ah oui?
Alors, sur le site internet bioalaune.com, écoutez bien, McDonald's lance son premier burger bio en Allemagne.
Non, c'est vrai?
Ah oui! Quand j'ai lu ça, j'ai ri, je me suis esclaffée. Donc, ceux qui ont des champs et des champs de vaches, de la viande, bref. Alors oui, en Allemagne...
Ils vont faire ça comment, alors?
Ah ben écoutez, la chaîne de fast-food va proposer des burgers bio dans ses restaurants allemands à partir du 1er octobre, c'est-à-dire, ça fait quelques jours déjà, et jusqu'au 18 novembre. Donc, les Allemands vont pouvoir manger le premier burger bio commercialisé par McDonald's Encore là, si j'avais eu le temps, j'aurais poussé mes recherches à savoir ce que bio veut dire pour McDonald's, parce que je crois qu'elle est là l'astuce derrière le marketing. Alors, petite nuance à prendre en compte, uniquement la viande sera biologique et sans antibiotiques. Alors, moi, lire cette phrase-là me dit, eh bien, combien d'antibiotiques il y a dans les burgers McDonald's si leur point de vente, leur pitch de vente, c'est de dire qu'il n'y a pas d'antibiotiques.
C'est ce qu'ils disent.
Uniquement, la viande sera biologique et sans antibiotiques. Alors, moi, ça me dit, votre salade, votre pain, votre fromage est plein d'antibiotiques dans ce cas-là. Le burger bio de chez McDo sera sans artifice. Mm-hmm. Alors, une tranche d'édame, un peu de laitue, une rondelle de tomate, un steak de bœuf et du pain aux graines de tournesol.
Mais en même temps, OK, je vais me faire l'avocat du diable.
j'aime ça, oui.
Mais je me dis, c'est pas un début? Au moins pour conscientiser peut-être des gens qui ne le sont pas du tout. Avalez votre bouchée de pomme, vous, Mathieu, avant de me répondre. Qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, je pense que depuis plusieurs années, on tape sur la tête de McDonald's. Et ça fait des années aussi qu'ils font des efforts. Je ne suis pas en train de les défendre. Mais c'est vrai. ça fait des années qu'ils essaient de continuer à faire des milliards de dollars tout en préservant une certaine image.
Oui, en essayant de nous vendre de la salade, entre autres, quand même.
Sans antibiotiques.
Mais c'est le mot préservé que j'aime parce que, justement, l'idée là, c'est d'essayer d'entrer dans un mouvement. Oui, ils font un effort. Un n'empêche pas l'autre. Mais est-ce que l'effort est dans la recherche du mot-clé en marketing ou l'effort est réellement dans l'action? C'est là où est-ce que moi, j'ai un petit problème parce que de dire exactement une phrase comme celle-ci me dit, mais pendant combien d'années vous vous êtes pas posé la question de mettre des antibiotiques dans la nourriture, mettre en danger la vie des gens pour leur faire payer seulement $1 un burger? Oui, il y a beaucoup de gens pour qui soudainement la nourriture était peut-être un peu plus accessible, mais quel type de nourriture? Donc, c'est un débat, mais vous faites bien de faire l'avocat du diable parce que vous avez raison. Si, justement, on est rendu à un point où est-ce que McDonald's commence à se poser des questions, je crois qu'il y a vraiment une belle porte pour l'avenir.
Sans compter quand même que...
Il faut faire plus.
L'écologie, entre autres, la bouffe écologique, on s'entend que c'est en train de générer beaucoup d'argent. C'est-à-dire, c'est quand même hallucinant tout ce qu'on essaie de nous vendre comme des produits soi-disant bio, des jus de fruits soi-disant bio et bons pour la santé, bourrés de sucre, de machin. Il y a quand même des gens sous couvert de mots écologie qui sont en train de faire un fric absolument bon. Donc, pourquoi pas non plus McDonald's, finalement?
Ah oui, totalement. Mais c'est ça, le marché de l'alimentation, comme vous dites, puis c'est bien dit, est en train de se diviser en deux. C'est comme il y a la nourriture des riches, la nourriture des pauvres.
Et voilà.
Moi, j'ai toujours été contre ça, justement, parce que ça devrait être l'inverse.
Mais oui!
Comme la nourriture qui utilise le moins de pesticides, je veux dire.
je suis contente qu'on en parle et on va arrêter là-dessus. On va ensuite passer sur le déversement des eaux à Montréal. Mais hier, je changeais le sac à poubelle de ma poubelle et je m'achète des sacs écolo. Tu sais, il y a des machins qui se désagrègent là-bas. Mais que je paye 3 fois minimum le prix des vrais sacs plastiques. Mais tu te dis, pourquoi ne pas faire le contraire?
Parce qu'à
ce moment-là, ça inciterait les gens, si c'était moins cher, à en acheter et ce serait meilleur pour l'écologie. Donc, encore là, ça rapporte du fric à quelqu'un et je trouve ça vraiment déplorable parce que c'est vrai que je les paye 9 $. De sacs au lieu de 3, un paquet de sacs régulier, mais tant pis, je me paye ça 9$ et puis c'est ça la vie.
Je donne l'adresse au coin de chez moi, c'est moins cher.
Ah bah oui, ça c'est fort probable, mais en tout cas c'est tout. Alors on va parler déversement des eaux usées, notamment on va se poser quelques questions pour peut-être essayer de mieux comprendre. Je suis en train de penser à l'Allemagne. En plus, en ce moment, ils ont des choses à se faire pardonner.
Oh mon Dieu.
Les champions du diesel et de la pollution.
Outrage.
Bon. Alors, écoutez, le déversement des eaux usées en 6 questions, c'est ce que nous propose Louis-Samuel Perron ce matin dans la presse. Qu'est-ce qui sera déversé exactement? Eh bien, environ 4 tonnes de résidus d'objets se retrouveront directement dans le fleuve en plus d'une 60aine de tonnes de sable et de sédiments. Selon un chercheur spécialisé dans le traitement des eaux usées au Centre des technologies de l'eau, Ces objets, visibles à l'œil nu, ne seront toutefois que la pointe de l'iceberg, puisqu'une importante quantité de phosphore et d'autres pathogènes et contaminants seront libérés dans la nature sans traitement, de 8 à 9 millions d'unités de colonies de coliformes fécaux par 100 ml d'eau seront déversées graduellement pendant une semaine. À titre de comparaison, une seule unité de coliformes par 100 ml découverte dans l'eau potable entraîne un avis d'ébullition.
Wow.
C'est pour ça qu'on a du mal à comprendre quand ils nous disent qu'il n'y a pas de risque. Qu'est-ce que la station d'épuration de Montréal traite habituellement? Eh bien, l'unique station d'épuration de la ville de Montréal traite en moyenne l'équivalent de 2 stades olympiques d'eau par jour. 3 stades s'il pleut beaucoup, illustre Sébastien Sauvé, qui est professeur titulaire en chimie environnementale à l'Université de Montréal. Or, la station d'épuration montréalaise élimine seulement 80% des matières en suspension et au mieux 50%. Nous avons vraiment le minimum, moins que ça, on serait dans un pays en voie de développement, lance M. Sauvé implacable, cet expert qui déplore notamment qu'aucune désinfection de l'eau ne soit réalisée. 8 milliards de litres d'eau, est-ce que c'est beaucoup pour le fleuve? C'est une question qu'on se pose aussi ici. Ce n'est pas beaucoup, toute proportion gardée en raison du débit énorme du Saint-Laurent, c'est ce que maintiennent les experts, celui-ci fluctue entre 6000 et 8000 mètres cubes par seconde. Autrement dit, 6 à 8 millions de litres d'eau, alors que le déversement envisagé par la ville représente 13 mètres cubes d'eau usée par seconde, autrement dit 13 000 litres, pendant une semaine. Donc, d'après ce que disent les spécialistes, l'eau va diluer beaucoup l'eau déversée. Où iront ces eaux usées? Eh bien, les éléments les plus légers des eaux usées déversées voyageront sur le fleuve Saint-Laurent jusqu'au golfe du même nom, comme le font jour après jour d'ailleurs les médicaments, détergents et autres contaminants qui passent à travers les mailles de la station d'épuration. Les résidus les plus denses se déposeront tout simplement au fond du fleuve, tandis que sur les berges, on va trouver toutes sortes de cochonneries qui vont flotter pendant un certain temps. Est-ce que les villes en aval qui s'approvisionnent en eau potable dans le fleuve seront touchées? Non. Selon les experts, ça ne change rien parce que la station d'épuration rejette déjà une charge de contaminants qui est très élevée et une charge de pathogènes qui est très élevée. Quels sont les risques concrets pour l'environnement? Ils sont difficiles à quantifier puisque le déversement ne durera qu'une semaine, mais tout porte à croire qu'il y aura un certain impact sur la faune et la flore. Quand il y a plus de résidus, de sédiments et de matières en suspension qui se déposent au fond du fleuve, ça peut colmater les endroits où les poissons vont se reproduire. Ça va avoir un impact sur la vie aquatique, expliquent toujours les spécialistes. J'ai aussi une chronique de François Cardinal qui s'appelle « On se bouche le nez ». Je vais vous en lire quelques extraits. Oui, quelques mots de François Cardinal en exergue à ce problème de déversement. Le déversement d'eau contaminée, dit-il, dans le fleuve, suscite la colère dans les chaumières, avec raison. Mais ce qu'il met en colère, lui, Cardinal, ce n'est pas tant le déversement que le fait accompli devant lequel nous a placé la ville de Montréal. Comme si, dit Cardinal, elle nous mettait brusquement le nez dans notre caca. Ça fait longtemps qu'on travaille. Sur l'abaissement de l'autoroute Bonaventure, dit-il, ça fait des années qu'on sait qu'on devra déplacer une chute à neige et ça fait au moins 12 mois qu'on prévoit purger les égouts. C'est délicat, ça. Mais pour une administration qui voit venir et qui a le sens des responsabilités, ce n'est pas un enjeu très, très compliqué. On dresse à l'avance une liste des options, on chiffre, on fait une étude coût-bénéfice et on choisit la solution la moins dommageable en trouvant le juste équilibre entre économie et environnement. On envoie des demandes à Québec, à Ottawa, on convoque les journalistes, on leur présente le problème, les options, les coûts, la décision. Merci, bonsoir. Vous pouvez tirer la chasse d'eau sans y penser. Mais non! Trop simple, dit Cardinal. Bien trop transparent. La ville a plutôt choisi de s'inspirer de ce qui s'était fait en 2003 et en 2007, d'agir en catimini et d'avertir une poignée de surfeurs pour se donner bonne conscience. Un peu comme si elle avait demandé à un fonctionnaire d'ouvrir discrètement les valves pendant que le maire était occupé à nous faire visiter le terrain du futur stade d'à côté. C'est de la chronique, ça. Hein? Voilà. Alors donc, il nous dit que Ottawa, ça, maintenant, on le sait. Là, pour l'instant, Monsieur Lebel a mis ça un petit peu sur la glace. Je pense que là, ce ne serait pas la peine que j'aille plus loin avec cette chronique-là. Il me semble que tout était surtout dit au tout début avec ces mots-là de François Cardinal. C'est vraiment, on se bouche le nez. Hein?
Yo.
Alors Stéphanie, on continue avec vous.
Oui, alors une petite dichotomie sur Internet. Je ne crois pas que c'est la seule, mais depuis 2014, il y a souvent cette nouvelle qui revient, soit Head & Shoulders et Gillette, soit deux compagnies de shampoing de Procter & Gamble, déciment la forêt indonésienne pour fabriquer leurs produits. Alors, il y a de plus en plus de forêts qui sont démolies pour faire pousser la palme, pour faire de l'huile de palme. Ouais. Et moi, ce qui me fascine, c'est pas cet article-là qui est drôle, c'est que continuellement, on voit, parallèlement à cette nouvelle-là, que des compagnies comme H&M et Zara s'engagent pour la préservation des forêts menacées. Alors moi, quand je vois ça, je me dis, il n'y a aucune discussion entre les multinationales, ce qui m'étonnerait énormément, étant donné qu'ils sont tous actionnaires l'une de l'autre.
Bien sûr.
Donc, encore une fois, sur le site bioalaune.com que j'adore, il y a énormément d'articles de ce genre qui s'entrecoupent, puis un protège, l'autre défend, l'autre détruit, puis pendant une semaine, celui qui détruit défend la semaine d'après, donc...
C'est difficile pour nous de nous y retrouver, quoi.
Mais c'est ça, quand on reste dans le même sujet, dans la même thématique, on finit par voir ces problématiques-là. Mais au quotidien, si, par exemple, c'est ça, on voit seulement la section environnement, on fait « Ah, ben c'est bien, eux, ils protègent », alors ça rehausse l'image.
Ouais.
Mais si on fait une recherche seulement sur l'environnement, on se rend compte que ça dépend de quel pied ils se sont levés ce matin-là, on dirait. Donc,
qu'est-ce que vous avez à nous lire, alors, du coup, là-dessus?
Oui, bien, H&M et Zara s'engagent pour la préservation des forêts menacées. Alors, H&M, multinationale suédoise, Zara, multinationale espagnole. Alors, ils se sont engagés le 2 avril auprès de l'ONG Canopy à ne plus utiliser de bois issu de forêts menacées pour la fabrication de leur viscose. Un engagement qui ouvrira peut-être la voie à d'autres grandes enseignes du prêt-à-porter. Alors déjà, il y a plusieurs, justement, enseignes de prêt-à-porter qui commencent à recycler les vêtements, recycler des matériaux. Donc, les bois issus de forêts menacées, d'accord, alors c'est certains bois. Alors, c'est déjà une bonne avancée.
Ouais.
Alors, il y a aussi la marque Quicksilver qui fait un peu plus des vêtements de skateboard ou de surf. Alors, ils se sont engagés, c'est ça, pour ne plus faire ça. Alors, les deux plus grandes marques d'habillement s'engagent à éliminer les forêts anciennes et menacées de leurs vêtements en viscose ou en rayonne pour faire face à l'impact grandissant de l'industrie du textile sur les forêts et la biodiversité et le climat.
Ils sont prêts à menacer leur collection de viscose et compagnie.
Exactement.
Mais peut-être que la mode est plus aux viscoses aussi et que ça les dérange un petit peu moins que lorsque c'est... Je ne sais pas, je dis ça.
Mais c'est bien de faire l'avocat du diable. C'est comme dans les années 70, le faux velours. Là.
Oui, oui,
donc,
oui,
je veux
oui,
dire,
oui,
moi, j'en vois plus. Donc...
Oui, 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 oui.
Alors, en 2013, près de 70 millions d'arbres auraient été abattus pour la production de textiles et ce nombre pourrait doubler dans les 20 prochaines années, estime l'ONG. La pulpe de bois et la cellulose contenue dans certaines plantes servant à la fabrication de la viscose ou soie artificielle par transformation chimique. Les recherches menées par Canopy mettent en lumière le recours régulier de l'industrie du vêtement aux espaces forestiers menacés pour la fabrication de matières textiles. Alors, la viscose et les matières équivalentes, rayonnes, modales, sont de plus en plus fabriquées avec le bois des forêts les plus menacées de la planète, comme les forêts tropicales d'Indonésie ou les forêts boréales du Grand Nord, dénonce l'ONG canadienne. Alors, c'est carrément un désastre écologique à entendre parler les compagnies de vêtements. Mm-hmm. Donc, l'idée, justement, c'est d'essayer de contrer ça pour ne plus aller piger dans ces forêts-là, puis essayer de trouver une autre façon de créer plus ou moins la même texture ou le même.
Oui.
Ouais. Donc, c'est ça, en souhaitant que Head & Shoulders et Gillette suivent le pas et...
Oui.
Enlèvent un peu l'huile de palme de leurs produits.
Oui, à défaut de nous enlever les pellicules.
Oui, c'est ça.
Oui. sais pas si vous avez vu la une de la presse ce matin, mais c'est une exclusivité de la presse qui nous apprend que une enseignante de l'école des Pins à Oka vient de remplacer, alors ça c'est une école publique, vient de remplacer les pupitres rouillés de sa classe par du mobilier qu'elle a récupéré elle-même dans les ordures d'une école privée, c'est-à-dire l'Académie Sainte-Thérèse, qui est une école privée subventionnée de Rosemère. Un véritable gaspillage, évidemment, qu'elle dénonce. Honnêtement, elle est passée à côté en sortant du travail. Elle a découvert cet amoncellement de pupitres, tout bonnement, mardi soir dernier. Elle a consulté les réseaux sociaux et il y avait quelqu'un qui avait pris en photo cette montagne que j'ai moi-même sous les yeux de pupitres et de poubelles aussi, de poubelles qu'on peut trouver, vous savez, dans les écoles, là, les poubelles rondes ou les poubelles en une espèce de stainless steel. Et les pupitres, c'est vrai que lorsqu'on les regarde, lorsqu'on agrandit la photo, on ne voit pas du tout si ces pupitres-là, en tout cas, ils n'ont pas l'air jeunes, mais ils n'ont pas l'air non plus complètement foutus, comme par contre la photo qu'on nous montre en dessous des pupitres actuels dans cette école publique. Ça fait dur, mais ils n'ont pas les moyens d'en changer. Alors, elle voit ça sur les réseaux sociaux. Elle décide d'y aller elle-même sur place pour voir, vu que c'était dans sa ville. Elle y va avec sa voiture, elle dit qu'il pleuvait, il y avait de la boue, tout ça, mais qu'à cela ne tienne, elle a réussi à rentrer deux pupitres dans sa voiture, qu'elle est allée porter à l'école. Ils n'en revenaient pas, ils les ont tout de suite lavé, évidemment, tout ça, mais ils étaient en parfait état. Et avec son mari, elle y est retournée, c'était jour de grève, ce jour-là, pour 34 000. Alors, elle est allée avec son père, en fait, ils ont repris la route et ils sont allés chercher les pupitres. Et elle dit, écoutez, ils ont l'air neufs à côté de mes vieux pupitres. Au-delà de la joie pour les élèves, je trouve que c'est du gaspillage de les avoir mis au déchet, surtout provenant d'une école privée subventionnée dans le contexte budgétaire actuel de compression. La directrice générale de l'Académie Sainte-Thérèse, Rose de Angelis, confirme le récit, mais ne partage pas l'avis de l'enseignante au sujet de l'état des pupitres. Ils ont l'air beaux comme ça, mais ce sont des pupitres qu'on a soudés. J'espère pour elle qu'elle ne sera pas là le jour où ils vont tomber sur les pieds d'un élève, prévient-elle. Moi, je l'ai entendue ce matin à la radio, cette femme-là, qui s'exprimait. Et qui disait d'abord, on ne les a pas jetés à la poubelle, on a pris rendez-vous avec un ferrailleur qui devait venir pour les chercher, donc on les a recyclés. Deuxièmement, elle dit qu'ils avaient effectivement eu un budget pour remettre des pupitres neufs pour cette classe-là. C'est quelque chose, d'ailleurs, ils ne s'y attendaient pas. Bon, en tout cas, bref, ils ont pu avoir, et c'est pour ça qu'ils ont dû se débarrasser. Mais elle dit, vous savez, on a souvent contacté les écoles publiques pour leur offrir des choses dont on n'avait plus besoin. Entre autres, elle parle de je ne sais plus combien d'écrans, vous savez, en toile, oui. pour projeter les diapositives. Elle dit, écoutez, ils sont absolument neufs, on ne s'en est jamais servi. Et là, on écume les écoles publiques pour leur offrir. Personne n'en veut. Elle dit, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? On va les mettre au rebut. Elle dit, c'est clair. Alors donc, elle se défend comme ça. Ben oui, non, mais regardez-moi.
Oui. Elle pourrait faire une vente.
Exactement. Alors, voilà, c'est une affaire à deux vitesses, comme toujours, avec des pour, avec des contre. Moi, ce que je trouve bien, c'est que cette femme-là, l'autre, à l'école publique, a eu l'intelligence, finalement, d'aller récupérer ça pour ses mômes. J'imagine qu'ils vont aller peut-être vérifier toutes les soudures, mais ils ont l'air vraiment beaucoup plus beaux, en tout cas, que ceux que j'ai sous les yeux et qui étaient en ce moment en place à l'école publique des Pins à Oka. Ça fait la une de la presse, quand même, hein, ce matin. Vous avez des petites choses en bref pour nous?
Oui, bien sûr.
Stéphanie Balthazar.
On parle beaucoup de la Catalogne ces temps-ci pour d'autres raisons que celles que je vais dire. Alors, nouveau concept, le bus végétal.
Le bus végétal.
Oh que oui! Alors, en Catalogne, on s'est dit, l'autobus promène toute la journée. Alors, pourquoi pas mettre un toit vert sur l'autobus? Alors, la nature envahit la ville. On adore ça. On allie originalité, écologie, le bus végétal ou photokinétique bus. Alors, serait le premier transport en commun à posséder un écosystème sur le toit. Et Marc Granien, un paysagiste catalan, s'est dit que ce bus-là rappelle l'idée qu'il faut augmenter les espaces verts en ville. Et puis...
Ils font vraiment pousser des choses sur le bus, c'est ça l'affaire?
Ils font pousser des choses. L'autobus est sublime. Il y a vraiment, je vous dirais, un pied de terre sur le dessus avec des belles plantes. Et oui, sublime photo du prototype.
Qui aime le vent, les plantes, j'imagine, parce que...
L'autobus est vert, bien sûr, donc...
Il pourrait mettre des roseaux, parce qu'on sait que les roseaux plient, mais ne rompent pas. Une petite dernière, mon ami?
Oui, bien sûr. Ben, écoutez, amusons-nous dans la même idée des nouveaux concepts. Alors, la fringothèque. La fringothèque.
La fringothèque. Oh, ça sent fringue, ça sent vêtements, non?
Excellent. Le nouveau concept qui allie mode et écologie. Alors, il y a quelques années, à Berlin, on mettait des vieux frigos dans la ville. Vous aviez de la nourriture que vous n'utilisiez plus. Vous mettiez ça là-dedans.
Okay.
Maintenant, c'est les vêtements. Alors, on n'achète plus. On laisse les vêtements dans des endroits spécifiques, un peu comme les croque-livres qu'il y a dans la ville de Montréal moment. Alors, c'est le nouveau concept en Europe. Évidemment, ça vient d'Allemagne une fois de plus. Puis, alors, les gens laissent leurs vêtements, empruntent d'autres vêtements. L'idée, c'est de les rapporter. Donc, on les emprunte pour une soirée, on les nettoie, on les ramène.
Ah oui!
Sous un système de consigne, là, un peu... Ouais.
Et ça fonctionne?
Écoutez, c'est tout neuf. Donc, c'est deux femmes qui ont inventé ça. Paula Fendel, Tekla Vilkening.
Oui.
Alors, c'est ça. Ils reprennent l'idée de la bibliothèque. Comme je vous disais, on prend, on laisse. Autant pour la nourriture qui marche peut-être un peu moins. Mais l'idée, c'est de voir avec 14 euros annuellement si les gens vont avoir envie de
On serait frileux ici. Là. Je pense aurait trop peur des bibites et autres.
Exactement.
Vous restez avec moi, Stéphanie?
Toujours.
Merci. Au programme de cette prochaine demi-heure, zéro déchet, gaspillage alimentaire et Elisabeth May. Oui, vous l'aurez compris, si vous venez juste de vous joindre à nous, il est beaucoup question, en ce mercredi matin, d'environnement et d'écologie, puisque je suis avec ma collaboratrice Stéphanie Balthazar. Toute seule, ce matin, on fait un gros bisou à Louise Mercier, qui est aux prises avec un vilain rhume, vilaine grippe, appelez ça comme vous voulez, mais elle est au fond du lit et vraiment, on vous embrasse bien fort, Louise. Stéphanie, vous, alors, l'environnement, c'est votre truc et vous nous arrivez avec d'autres sujets, notamment sur le gaspillage, mais où ça?
L'ONU!
Ce truc, vous savez
que
c'était Charles de Gaulle qui qualifiait l'ONU de ce truc, ce machin, c'est vous dire. À quel point il était impressionné par l'Organisation des Nations Unies.
Respect.
Il n'en avait rien à faire. Alors, gaspillage à l'ONU.
Oui, écoutez, c'est un sujet qui m'a toujours fascinée parce que je me rappelais plus jeune, quand mes parents regardaient le Festival de Cannes, je me disais, mais la ville est tellement petite, il y a tellement de gens. Ces gens-là, on s'entend, on ne peut pas les recevoir avec rien de moins que du caviar. Donc, c'est un sujet qui m'a toujours fascinée, justement, ces grands organismes-là qui prennent des décisions pour tout le monde, mais à quel point on n'est pas maître dans sa maison, des fois. Donc, alors, le gaspillage alimentaire, le déjeuner 100% déchets des dirigeants de l'ONU. Alors, le gaspillage alimentaire est une problématique éthique et écologique majeure. Dieu merci, la Ville de Montréal, justement, se met un peu au compost. Alors, pour y sensibiliser les dirigeants mondiaux, deux chefs ont servi un repas entièrement constitué de déchets à l'ONU. Alors, façon de passer le message.
C'est vrai?
Oui. Alors, Dan Barber est un chef cuisinier ambitieux qui milite pour une gastronomie aussi éclatante que vertueuse.
Oui.
Dimanche, le 27 septembre, lors d'un sommet co-présidé par François Hollande, l'éco-cuisto s'est associé à Sam Cass, un ancien cuisinier de la Maison-Blanche, afin d'exhorter les dirigeants du monde entier à réfléchir à l'alimentation du futur. Alors, la photo qui est présentée, c'est une sublime assiette avec... des restants de moules, de crevettes, c'est pas très, très appétissant. Alors, les deux chefs ont frappé un grand coup pour le déjeuner. Le siège new-yorkais de l'ONU a remis sous cloche ses menus traditionnels pour laisser place à une carte 100% « made in déchets ». Alors, le défi était de créer quelque chose de vraiment délicieux à partir de ce que nous aurions autrement jeté. Alors, Hamburger végétarien à base de pulpe, de fruits pressés et frites de maïs destinées à nourrir les animaux. Les chefs ont revisité un classique de la gastronomie outre-Atlantique sur fond de recyclage, une manière de remettre la question du gâchis alimentaire sur le haut de la pile en prévision de la COP21. La COP21, c'est un...
Qu'est-ce que c'est, oui?
C'est un projet de l'ONU que je veux vous parler dans une semaine ou deux parce que j'attends de voir tous les résultats et les critiques.
Oh, bravo.
C'est un projet très intéressant. Alors, selon l'ONU, l'alimentation et l'agriculture, un tiers de la nourriture produite est jetée. Donc, les dirigeants doivent se saisir du sujet, commencer à en discuter. Les déchets alimentaires génèrent l'équivalent de 3,3 milliards de tonnes de carbone par an, soit un peu moins que les émissions de la Chine ou des États-Unis. Alors, pour les chefs, le ralliement des dirigeants à leur cause ne doit pas passer par la culpabilisation. Ce qui est intéressant, c'est que justement, ils ont fait un hamburger végétarien avec ce que, en théorie, tous les restaurants auraient jeté, ou presque. Donc, je trouve l'initiative
fantastique. Mais où est-ce qu'ils ont pris ça? Justement, ils ont pris ça dans des restaurants qui parce que c'est quand même, excusez-moi, mais des moules et des crevettes, là... Tu ne vas pas chercher ça au fond d'une poubelle, je veux dire. Donc, on parle de choses qui auraient été peut-être soi-disant périmées, puis qu'on n'aurait peut-être pas utilisées dans les... C'est ça, j'imagine.
Il n'y a pas le détail, donc c'est une excellente question. Dans l'article, de la façon que c'est proposé, bon, la photo peu appétissante ne correspond pas nécessairement à ce qui a été servi, mais de ce qu'on comprend, c'est qu'à l'intérieur du repas, ça, c'est une photo, je crois, juste pour faire réagir le lecteur. Mais ce qu'on comprend, c'est que, justement, ces deux chefs-là doivent être dans le milieu de la restauration. Mmh. Donc, ça doit être quelque chose qu'ils ont prévu plusieurs semaines, voire mois à l'avance, pour s'assurer de pouvoir créer un menu avec une matière qu'ils allaient avoir en quantité, en parenthèse, industrielle.
Oui, parce que là, finalement, ce qu'on voit, ce sont les préparatifs, quoi.
Exactement.
Et non pas l'assiette qui leur a été servie.
C'est ça.
Parce que je suis convaincue que
l'assiette devait être très belle.
Très, très belle.
Oh, mon Dieu,
c'est
que
certain.
Oui. Ça devait être... Oui, c'était excellent. Alors, c'est ça. Donc, je trouve que c'est quelque chose d'assez encourageant. Et puis, c'est une belle façon de passer le message.
Oui, absolument. Moi, quand vous m'avez annoncé gaspillage à l'ONU, j'étais convaincue que ce serait un sujet sur le contraire. Genre, tout ce qui n'a pas été mangé au cours de cette réunion-là.
Mais ça, c'est le Festival de Cannes,
oui.
Qui jette des tonnes et des tonnes de déchets, de serviettes de table.
Bah oui, mais enfin, bon, Festival de Cannes et tellement d'autres gros événements comme ça.
Toronto, ça doit être aussi pire.
C'est une catastrophe, oui. Oh, mais donc, fort intéressant. Vous avez trouvé ça dans quel...
bioalaune.com.
Ah, toujours, hein?
Super site Internet. Des nouvelles assez variées.
Accessible à tout le monde.
C'est
pas payant. Faut pas payer pour être...
Pas du tout.
Excellent. Merci beaucoup.
Plaisir.
Madame Elisabeth May, envers et contre tous, oui, envers comme la couleur et contre tous. Et c'est un papier de Jean-François Bégin que je vais me faire un plaisir, peut-être pas de vous lire dans son intégralité, parce que c'est vraiment tout un dossier que nous présente la Presse Plus ce matin. Mais je trouve qu'on n'en parle tellement pas beaucoup dans les journaux d'Elisabeth May, alors que, qu'on le veuille ou non, elle est candidate. Et non seulement elle est candidate, mais même si on n'est pas vert, même si on n'est pas écologique. C'est quand même une femme formidable. Mm. C'est quand même une femme qui, bon an, mal an, brave toutes les tempêtes, brave aussi. En plus, elle est la seule femme face à tous ces cravatés. non, mais moi, c'est le genre de femme, même si je vote pas pour, imaginons, là. Ben, c'est comme, un petit peu comme Angela Merkel. Je me dis, on prend des femmes comme ça pour se tenir debout face à tous les cravatés là, de la planète. Et moi, je trouve ça formidable. Alors, je suis contente qu'on accompagne un petit peu Madame May. Et qu'on passe une journée avec elle, notamment, c'est ce qu'a fait Jean-François Bégin. Elisabeth May, qui ne s'en cache pas, oui, elle aimerait parler mieux français. Et sa fille, Victoria Kate, qui l'accompagne partout pendant la campagne électorale, a appris la langue en classe d'immersion à Ottawa et elle la parle avec une relative aisance. C'est très difficile pour elle de m'écouter, lance sa mère en riant. Et en français. La leader du Parti vert compense en effet sa maîtrise approximative de ce qu'elle appelle les règlements grammatiques par une absence de complexe qui force l'admiration, écrit Jean-François Bégin. Elle s'est exprimée en français du matin au soir quand la presse a récemment passé une journée en sa compagnie. Entre ses responsabilités de chef, son travail aux communes et ses visites hebdomadaires dans sa circonscription du sud de la Colombie-Britannique, Madame May n'a le temps que pour une seule petite heure de leçon par semaine et encore. Les mauvaises langues, sans jeu de mots, diront que cette heure profite plus au vert qu'à elle. Sa professeure Aline Bégin est devenue candidate pour le parti dans Abitibi-Témiscamingue. Alors, parlons de cette femme de terrain qui avait défait facilement le ministre conservateur Gary Lunn, Madame May, parce que ça c'était il y a 4 ans, qui ne tient pourtant rien pour acquis. À défaut d'être invitée à tous les débats des chefs, elle participe à tous ceux organisés dans sa circonscription. Et même s'ils sont particulièrement nombreux, il y en a eu 16 au dernier décompte. C'est important d'avoir une course sur le terrain, dit-elle. Le système existe pour élire des députés, pas pour avoir des stand-in pour le chef. Son expérience parlementaire la distingue clairement de ses adversaires. Alors qu'ils récitent leurs textes d'un ton souvent monocorde, elle s'exprime sans notes et avec une passion contagieuse, dit M. Bégin. « Je n'ai jamais préparé de discours, même aux communes, dit-elle. Elle ne s'en porte pas plus mal. Ses collègues députés lui ont décerné le titre de meilleure oratrice en 2014, après ceux de députée la plus travaillante en 2013 et de parlementaire de l'année en 2012. Elle a quand même des lignes qu'elle répète dès qu'elle en a l'occasion. Elle rappelle inlassablement, par exemple, l'histoire de Tommy Douglas et de son petit groupe de députés du Nouveau Parti démocratique, dont l'influence sur le gouvernement libéral minoritaire de Lester B. Pearson dans les années 60 a coïncidé avec l'avènement du système de santé universel, du régime de pension du Canada et de l'assurance chômage. Cette femme qui a grandi en Nouvelle-Écosse, dans l'île du Cap-Breton, d'ailleurs c'est là qu'elle a entouré le français, entourée d'Acadiens, à grand étang, c'est pas facile non plus certainement. Ça, non, sans vouloir juger quoi que ce soit, mais c'est vrai que le français là-bas est bon. Hein, on sait que c'est un mélange c'est un peu du franglais, là, comme on appelle ça. Elle a passé la plus grande partie de sa carrière à Ottawa, Madame May, où elle a été conseillère principale en politique du ministre conservateur de l'Environnement, Tom McMillan, sous Brian Mulroney. Ensuite, elle a été directrice générale du Sierra Club de 1989 à 2006. Je vous avouerai mon inculture sur le sujet. Je ne sais pas ce qu'est le Sierra Club et je m'en excuse. Et finalement, elle a quitté le Sierra Club pour rentrer en politique. Mais comme elle dit, la politique, c'est une affaire de famille. Et cette femme-là, elle est monoparentale. Et elle dit, si ma fille ne m'avait pas soutenue, côtoyée, quand je lui ai demandé est-ce que je me lance en politique, si elle m'avait dit non, maman, je ne me serais pas lancée en politique. Mais elle a dit oui. Et non seulement elle a dit oui, mais elle suit sa mère partout. Et c'est vraiment... Elles sont comme les deux doigts de la main, ces deux femmes-là. Interrogées d'ailleurs par la presse sur son désir de se lancer un jour en politique, Kate, elle-même, la fille, a répondu par la négative, car elle a d'autres ambitions. Elle veut entreprendre des études doctorales. Surprise, quelques heures plus tard, on apprenait qu'elle était la candidate poteau des Verts dans... Berthier-Masquinongé, la circonscription de la candidate poteau par excellence des élections de 2011, Ruth Hélène Brosseau. Voilà, donc Madame May, c'est une femme, je pense d'ailleurs, qui force l'admiration et même de ses collègues et ennemis en politique. Mm-hmm. Je pense que tout le monde lui reconnaît une passion à nul autre pareil. Comment ne pas reconnaître ça, enfin?
C'est ça.
Alors, Stéphanie.
Oui, eh bien, Sierra Club, quand vous avez dit cela, je me suis dit, mais moi non plus, je ne sais pas c'est quoi. Fondée par Theodore Roosevelt,
okay.
San Francisco, États-Unis, c'est une association américaine écologiste.
Bon.
Fondée en 1892 dans le but de protéger la Sierra Nevada. Voilà le Sierra, d'où ça vient.
Merci donc, d'avoir fait la recherche.
Ça fait plaisir. Ben, moi aussi, je me disais, mais qu'est-ce que c'est?
non, mais vraiment, merci beaucoup d'avoir fait cette recherche.
Puis, je suis d'accord avec vous par rapport à Elisabeth May. Moi, j'ai vu sur le site Internet du Soleil de Châteauguay, soit www.cybersoleil.com, un article qui parlait d'Elisabeth May aussi. Puis, ce que j'ai beaucoup aimé, bon, c'est dans une optique un peu d'une entrevue. La première chose qu'elle dit, c'est son but, c'est d'obtenir la balance du pouvoir. Mm-hmm. Donc, ce n'est pas de prendre le pouvoir, ce n'est pas d'imposer le pouvoir, c'est d'avoir une balance.
Une balance.
Je crois que c'est ça qui manque beaucoup au Canada en ce moment.
Vous avez raison.
Que ce soit plus balancé. Donc, par la suite, des grands mouvements, mais c'est quand même un pays qui a une position géopolitique en ce moment assez intéressante pour les années à venir. Donc, je pense que en tout cas, c'est mon opinion personnelle, mais de grandes discussions doivent s'entamer.
Oui.
Et pas quelqu'un qui impose sur tout le monde, mais bien plusieurs personnes ensemble qui décident. Donc, je vous parlais de gaspillage alimentaire. Alors, j'ai trouvé un article fascinant, toujours bioalaune.com. Je me suis dit aujourd'hui, j'allais beaucoup parler de ce site-là parce que c'est un bon site.
Alors, allons-y.
Alors, le top 10 des multinationales de l'agroalimentaire les plus polluantes.
Mm-mm.
Ah oui,
ça va faire mal, ça.
C'est pas chouette, mais je crois que tout le monde s'en doute un peu. Donc, alors, dans un rapport, l'ONG Oxfam établit le classement des 10 entreprises agroalimentaires qui polluent le plus et dénonce un manque d'engagement de ces firmes dans la lutte contre le réchauffement climatique. Je crois qu'il est surtout là aussi le problème. C'est pas bien pollué, mais il faut aussi être responsable de ce qu'on fait.
Exactement.
Alors, le 20 mai, l'ONG Oxfam a publié son rapport sur les géants de l'agroalimentaire et leur impact sur le changement climatique. Alors, sur le site Bio à la Une, il y a un article justement sur ce rapport et le rapport aussi est accessible. Alors, l'organisation dresse ainsi la liste des 10 multinationales qui émettent le plus de gaz à effet de serre, les Big Ten. À eux, 10, pardonnez mon accent matinal, Associated British Food, Coca-Cola, on s'en doute, Danone.
Attendez, allez-y doucement. Donc, en premier, c'est Associated?
British Foods. Je ne pourrais pas vous dire ce qu'ils font. Ouais.
Non, c'est ça.
Mais
c'est...
eux doivent avoir un nombre assez incroyable de sous-marques. Coca-Cola, on s'en doute.
Bon.
On a souvent entendu parler, surtout au Québec, le rejet d'eau souillée qui...
Un autre sujet.
Danone. Évidemment, il y a beaucoup de plastique. Alors, General Mills, beaucoup de terres qui servent à autre chose, qui sont utilisées pour le blé. Donc, on fait comme un seul type d'agriculture.
OK.
Kellogg's.
Ah là là là.
Alors, on rajoute un peu de BHT dans nos boîtes de céréales.
Oui. Puis pourtant, c'est tellement vendu. Comme,
c'est incroyable. Hein?
Comme étant naturel, bon pour la santé, en tout cas. Bon.
Mars. Alors, ici, c'est pas précisé si on parle de la barre Mars ou si Mars est une multinationale, je sais pas, hispanophone.
Absolument.
Ou
mais oui, c'est une multinationale. Hein. Mars, c'est vraiment comme Nestlé, finalement.
Okay.
J'ai l'impression que c'est le même genre de oui. C'est énorme, hein. C'est pas seulement la barre. Hein. Oh là là, oui, c'est gros.
C'est gros, bah. Mondelez International, ça, je me rappelle avoir déjà vu, je me rappelle plus quel produit, mais justement, je crois que c'est peut-être Amérique du Sud,
c'est possible.
Alors, les classiques Nestlé, Pepsi,
c'est ça.
Unilever. Alors, on parle de savon Dove, on parle au niveau de l'alimentation, il y a beaucoup de produits faits avec du blé. Des produits pour bébés, malheureusement.
Oui.
Alors, tous ces gens-là auraient émis 264 millions de tonnes de gaz à effet de serre en 2012, soit autant que le Danemark, la Norvège, la Suède et la Finlande réunis. Et plus que certains pays producteurs de pétrole, comme les Émirats arabes unis.
Oh.
C'est absolument incroyable.
Et alors là, évidemment, la question, c'est que font ces grandes multinationales-là pour lutter contre ça? Parce qu'on dit qu'on fait beaucoup de choses, entre autres, contre le charbon, tout ça, qui est encore très utilisé. Mais quand on voit ça...
Je crois que c'est le problème de la prochaine décennie, dans le sens, pas laisser aux enfants, mais dans l'optique... Je crois que les gens vont commencer à s'attaquer à ça parce que c'est inadmissible. Parce que, écoutez bien, si ces 10 compagnies génèrent plus $1 milliard chaque jour, aucune d'entre elles n'est pleinement investie à user de son influence pour modifier ses pratiques de production alimentaire.
Est-ce que j'ai bien entendu?
Oui.
Chacune.
Oui.
$1 milliard chacune.
Oui.
Il y a vraiment des choses qui nous échappent. Honnêtement, je ne pourrais plus jamais bouffer un yogourt sans avoir ce chiffre-là dans la bouche.
J'ai cassé ça pour vous, là.
Non, mais...
aller avec Yogo, l'association des agriculteurs de la région de Granby. Yogo, c'est très bien ça.
Oui.
Mais oui, c'est un outrage. Alors, ils sont au même niveau que Exxon, toutes ces grosses compagnies pétrolières. En quelque part, ils sont au même niveau. T'sais. Énormément de profits. Bon, on s'entend que les compagnies pétrolières font un peu plus d'argent, mais quand on lit ça, puis en plus, c'est ça, Oxfam dit qu'ils estiment que les 10 sociétés pourraient réduire de 80 millions de tonnes leur émission de gaz à effet de serre.
Ah, ils pourraient donc.
Si elles se mobilisaient. Mais justement, le dernier livre de Naomi Klein, oui. Tout peut changer, parle exactement de ça. Que si les gaz à effet de serre ne diminuent pas, et pour qu'ils puissent diminuer justement ces multinationales-là, doivent se responsabiliser. Mais pour ça, j'ai l'impression que non seulement la population, mais les politiques aussi doivent mettre leurs pieds à terre.
Oui, exactement. Et puis, je pense que vous vouliez rajouter quelque chose. Allez-y, si vous voulez, Stéphanie.
Eh bien, écoutez, Oxfam s'alarme de la négligence et de l'inaction. L'idée, c'est justement, il faut que ça change.
Il faut que ça change. Il faut que ces gens-là réagissent.
Ben oui.
Savez-vous, chère Stéphanie, qu'on a découvert plus de 200 espèces dans l'Himalaya?
Hein?
Oui.
C'est génial.
Un singe qui éternue sous la pluie.
Oh, j'aime ça.
Ou un poisson qui marche.
Oh!
Le Fonds mondial pour la nature a recensé plus de 200 espèces découvertes récemment dans l'est de l'Himalaya. C'est une initiative visant à sensibiliser aux menaces pesant sur les richesses naturelles de la région. Et parmi les découvertes, il y a le poisson à tête de serpent qui marche, qui peut respirer de l'air, qui peut survivre 4 jours sur la terre ferme et ramper 400 mètres sur sol humide.
Wow.
C'est fou, hein? Dans les forêts du nord de la Birmanie, les scientifiques ont fait connaissance en 2010 avec un singe noir et blanc au nez retroussé qui le fait éternuer quand il pleut.
Cute.
Pauvre petit loup. Les jours de pluie, il est souvent assis la tête entre les genoux pour éviter d'avoir le nez rempli d'eau.
C'est mignon.
Pauvre petit loup. Mais oui, non, mais c'est incroyable. Moi, quand je dis que la Terre, elle s'en sortira toujours, c'est l'homme, hein, à mon avis, qui va disparaître.
Ah oui, oui, non, ça c'est clair.
Tiens, j'ai un autre papier ici dans le journal de Montréal que j'ai bien aimé. Non, pas sûr que je l'ai bien aimé. On parle de l'indice du bonheur sur les jeunes, et on nous dit que les jeunes sont moins heureux et plus inquiets de leur avenir. Personne ne s'inquiète plus de leur avenir que les jeunes Québécois d'aujourd'hui, qui sont donc bien moins heureux que les générations plus âgées, écrit Marie-Ève Dumont. On se fait tellement projeter des images de gens parfaits que les standards deviennent impossibles à atteindre, disent les jeunes. On en vient à la pensée que c'est ça le bonheur, alors que c'est inatteignable. Mais je ne pense pas qu'au fond, on soit moins heureux, souligne Dalina Joseph, étudiante au Cégep Montréal. La jeune femme de 18 ans réagissait à l'indice relatif du bonheur qui fait état chaque année des villes où il fait bon vivre au Québec. Les habitants des banlieues seraient d'ailleurs beaucoup plus comblés, mais cette fois, le rapport dresse aussi un bilan inquiétant de la génération des 18-34 ans. L'indice du bonheur des jeunes est particulièrement faible et diminue sans cesse depuis que nous avons commencé à faire ce rapport en 2006, particulièrement chez les 18-24 ans, rapporte Pierre Côté, le fondateur de l'indice. On n'a plus la courbe de bonheur élevée en début de vie, de descente par la... Attendez, on a... plus la courbe de bonheur élevée en début de vie, de descendre par la suite et de remonter dans la cinquantaine. Je ne sais pas si j'aurais dit ça comme ça, mais enfin, j'espère que je me suis fait comprendre dans ma lecture. C'est écrit tel que. Bon. Stéphanie.
Oui, alors, dans le courrier international, il y a un article... qui parle de ma chère Naomi Klein.
Oui.
Puis, il y a beaucoup de gens qui ont signé un manifeste, le manifeste de Naomi Klein contre l'inaction politique. Alors, pour ceux et celles qui ne la connaissent pas, Naomi Klein est une journaliste torontoise qui, Mon Dieu, qui a une carrière qui a, comment je pourrais dire, qui a été un peu lancée pour les gens qui ne la connaissent pas avec le livre Nos Logos. Donc, je vous dirais, il y a peut-être 10-15 ans, une espèce de gros document de 600 pages qui mettait à l'avant-plan les pratiques outrageuses de toutes les entreprises telles que Nike, Gap, bref, toutes ces compagnies qui mettent l'image de marque à l'avant-plan et qui nous font oublier un peu les gens qui travaillent derrière, souvent pour des salaires méprisables et tout. Donc, aujourd'hui, tout le monde a un peu une petite connaissance ou au moins une idée de ce qui se passe dans ce qu'on appelle les sweatshops. Et c'est grâce à Mme Naomi Klein que, en tout cas, surtout au Canada, bref, on a eu un peu plus conscience de ça. Donc, elle, son combat est excessivement politique, écologique. C'est une femme fantastique qui fait vraiment son possible d'une intelligence incroyable. Puis, elle a signé un manifeste avec plusieurs autres personnes pour justement dénoncer un peu le Canada et dire, bon, arrêtez de faire semblant que vous protégez l'environnement. C'est excessivement faux. Alors, je vous invite à voir sur Internet, il y a la bande-annonce du documentaire qui suit le livre que je lis en ce moment, « Soit tout peut changer ». Puis, l'idée, justement, c'est de commencer à faire bouger les choses de tout ce qu'on parle depuis ce matin, depuis toujours.
Okay.
Gaz à effet de serre, responsabilisation des multinationales, il faut que ça change. Alors, Courrier international, un article qui parle de ça. Il y a eu la conférence de presse il y a quelques jours. Alors, c'est un texte qui a été signé par plus de 100 personnalités. On parle de Leonard Cohen, Neil Young. Puis, tout le monde s'est mis ensemble. Alors, le thème du manifeste fait écho au dernier livre de Naomi Klein. Mm-hmm. En anglais, This changes everything. Mm-hmm. Tout peut changer. Et puis, il y a le documentaire qui va sortir bientôt, fait par Avi Lewis, soit le mari de Naomi Klein. Et il a été présenté à l'avant-première du Festival international du film de Toronto. Donc, à suivre, à regarder, où vous allez en entendre parler de toute façon.
Oui, ben c'est ça. Il me semble, d'ailleurs, c'est sorti... Est-ce que c'est sorti il y a déjà quelques jours, ça? Parce qu'il me semble avoir lu ça quand c'est sorti dans Le Devoir. Est-ce que c'est possible?
Ça fait pas longtemps.
Ça fait pas longtemps, effectivement.
C'est en train de sortir en ce moment. Bon, les salles, ça dépend quelle salle. Évidemment, à Montréal, je dirais le cinéma
du Parc.
Ah, le film,
vous parlez. Ah, d'accord, oui. OK. Là, moi, je parlais de cette espèce de manifeste.
Le manifeste aussi, c'est ça. Ça fait une semaine, c'est sorti environ.
Ah bon, c'est ça, OK. Donc, au cinéma du Parc, vous dites qu'il est possible d'aller...
Prochainement, il va y avoir le documentaire. Et puis, justement, le manifeste est facilement trouvable sur Internet. Puis, Naomi Klein, c'est chaud en ce moment. Là. Elle est dans l'actualité. Puis.
Il n'y a pas de problème.
C'est à suivre.
Merci. Juste rapidement, cette nouvelle aussi parue ce matin. Encore plus d'électricité achetée au privé. C'est assez incroyable, mais c'est vrai. Déjà aux prises avec d'énormes surplus énergétiques, Hydro-Québec va acheter pour 945 millions de dollars d'électricité dont elle n'a pas besoin en 2016, a appris le Journal de Montréal. La question, j'ai envie de le dire en anglais, pourquoi ça m'est venu en anglais? Why? Hein? Pourquoi, Seigneur? J'ai une caricature ici, celle de M. Baudet dans le Journal de Montréal. Il va bientôt falloir un registre des mononques. C'est signé Lise Ravary. D'ailleurs, je vais vous lire un petit peu plus tard sa chronique. Nous sommes dans un bureau, inscription au registre des mononques du Québec. Alors, en tête, il y a Marcel Aubu. Derrière lui, on reconnaît, voyons, le docteur dont on parle tout le temps. Son nom m'échappe. Le monsieur unijambiste, là, voyons, le psy. Docteur Mailloux, merci beaucoup. Alors, on en reconnaît comme ça quelques-uns. Il y a aussi un genre pakistanais derrière aussi, là. Mon nom pakistanais qui arrive pour venir. On dit, oui, voilà. Et puis là, il y en a un qui dit, hey, picote. Ah oui, ça, c'est Mailloux qui dit, hey, picote Tremblay, on pousse pas, il y a de la place pour tout le monde. Voilà, c'est ainsi qu'on va terminer cette heure-là. Stéphanie Balthazar, merci beaucoup d'avoir été là. Il vous restait encore un petit restant de grippe et pourtant vous avez bravé cela.
Oui.
Et je vous en remercie beaucoup de ne pas m'avoir abandonnée alors que la pauvre Louise, elle est vraiment au fond
en
début de grippe et on lui souhaite un prompt rétablissement. Oui. On se retrouve la semaine prochaine,
bien
Stéphanie.
Sûr.
Je serai très heureuse à nouveau de vous accueillir, vous en environnement écologie. Louise Mercier, beaucoup plus dans le domaine de la psychologie et de la philo notamment. Alors, c'est Clotilde Saye qui vous parle. Les voies de service se poursuivent dans quelques minutes. Je reste avec vous. Merci, à plus tard.